Bonsoir ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde où vous nous écoutez. Ici à Paris, il est pile 20h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Des reportages, des analyses, des commentaires, c'est RFI Soir, mais tout de suite le journal. Dans le sud de la Syrie, le déploiement de l'armée israélienne pour, dit-elle, protéger des villages druzes. À Gaza, le Hamas qui publie une vidéo montrant un otage israélien blessé, le crâne et le bras gauche couverts de bandages. Et puis au Gabon, Oligui Nguema investit après 19 mois de transition. L'armée israélienne annonce s'être déployée dans le sud de la Syrie, se disant prête à intervenir pour protéger des villages druzes. Cela après des heurts meurtriers en début de semaine entre forces loyalistes et membres de cette minorité religieuse. L'ONU appelle Israël à cesser immédiatement ses attaques contre ce pays. Faisons un point avec vous, Vincent Danilo.
L'État hébreu s'immisce un peu plus dans les violences confessionnelles qui opposent des combattants islamistes affiliés au pouvoir syrien aux combattants druzes. Hier soir, déjà, Israël avait lancé 20 frappes sur le territoire syrien en représailles aux exactions commises envers la minorité chiite. Aujourd'hui, l'armée israélienne a annoncé le déploiement de troupes dans le sud de la Syrie. Leur nombre et leur localisation exacte restent pour le moment inconnus. L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie a condamné avec fermeté les violations du territoire syrien par Israël et appelle le pays à respecter le droit international. Dans la foulée, l'Iran et le Hezbollah ont dénoncé la tentative israélienne de détruire les défenses militaires syriennes. Accusé de chercher à s'installer dans le sud de la Syrie, l'État hébreu assure agir pour protéger les druzes. Depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou voit comme une réelle menace la montée en puissance à ses frontières d'un régime dirigé par Ahmed al-Sharaa, ancien rebelle qui avait prêté allégeance à Al-Qaïda.
À Gaza maintenant, le Hamas publie une vidéo montrant un otage israélien blessé, le crâne, le bras gauche couvert de bandages avec des taches marrons. Parlant hébreu et avec un accent russe, l'homme se présente comme le prisonnier numéro 24. Il laisse entendre qu'il a été blessé dans un bombardement israélien. Et puis depuis plus de 24 heures, au large de Malte, le bateau chargé d'aide humanitaire de l'ONG Flotille pour la Liberté attend d'accoster après avoir été la cible de drones. À bord, d'après l'organisation, une trentaine de bénévoles en route pour Gaza où Israël empêche l'arrivée d'aide humanitaire depuis maintenant 2 mois. Yassemine Akar est membre du comité directeur de l'ONG, appelle les autorités maltaises à laisser le navire accoster et demande à l'Espagne, la Grèce et la Turquie d'envoyer des bateaux de secours.
L'eau continue d'entrer dans le bateau. Le capitaine demande à se rapprocher des eaux maltaises pour obtenir une forme de sécurité. Mais les autorités de Malte ignorent cela. Les navigants sont bloqués à bord du navire. On a demandé à leur apporter de l'eau, de la nourriture, mais cela nous a été refusé. On ne veut pas d'eux sur les côtes maltaises. Nous avons 4 blessés légers avec des brûlures et des coupures. Et il est difficile de savoir où est le bateau exactement parce que 2 opérateurs Internet ont résilié notre contrat. Nous n'avons donc plus qu'une seule source d'Internet sans savoir pour combien de temps encore.
Par ailleurs, l'association de la presse étrangère appelle Israël à permettre aux journalistes un accès sans restriction à la bande de Gaza, où les journalistes ne peuvent se rendre sans escorte. La FPA reproche à Israël et dénonce une tâche honteuse pour un pays qui se présente comme un modèle de démocratie. Un hôpital de Médecins Sans Frontières au Soudan du Sud a été bombardé tôt ce matin. La pharmacie a été détruite, cela a provoqué la perte de tous les médicaments. Annonce faite par l'organisation humanitaire, un patient et un membre du personnel ont été blessés. 19 mois après avoir renversé la dynastie Bongo au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema endosse le costume de président de la République. Il avait été plébiscité le 12 avril en obtenant presque 95% des voix, après avoir promis de rendre le pouvoir aux civils après 2 ans de transition politique. C'est en costume civil, justement, qu'il vient de prêter serment à Libreville. Ce sont des milliers de personnes qui se sont rassemblées à Abidjan pour soutenir le candidat du principal parti d'opposition, Tidjane Thiam, exclu de la course à la présidentielle qui aura lieu au mois d'octobre. Les dirigeants du parti ont appelé à la mobilisation et au sursaut national. Benjamin Moloïse rendu au sien, le gouvernement sud-africain a remis à sa famille les restes exhumés de ce ce militant politique pendu en 1985 pour le meurtre d'un policier, ce qu'il avait toujours nié. Son exécution avait alors déclenché des émeutes en Afrique du Sud et des protestations dans plusieurs capitales du monde. En Haïti, la coalition de gangs Vivre Ensemble qui fait régner la terreur sur Port-au-Prince et le gang de Grand Griffe qui étend sa toile dans le département de l'Artibonite sont désormais considérés par les États-Unis comme des organisations terroristes étrangères. Cette disposition permet de s'attaquer à tous ceux, même en dehors d'Haïti, qui soutiennent, financent, arment ces organisations criminelles. Le commentaire d'un chercheur de l'International Crisis Group, spécialiste d'Haïti, il s'appelle Diego Darin.
Cette désignation pourrait être un moyen d'augmenter les risques juridiques pour ceux qui les soutiennent d'une manière ou d'une autre, ou de cibler plus facilement les réseaux impliqués dans le trafic d'armes qui sont à destination des gangs en Haïti. Mais en réalité, les effets négatifs de cette mesure risquent de dépasser largement ses avantages. Ce label de terroriste est un outil très politisé et une mesure presque irréversible qui a peu d'impact sur des acteurs qui sont déjà en dehors de tout cadre légal. Si l'objectif est à terme de réintégrer ces groupes ou d'offrir une porte de sortie à certains de leurs membres, notamment aux mineurs qui sont de plus en plus enrôlés dans les gangs, cette désignation complique tout. Une autre raison qui était avancée par certains responsables du gouvernement états-unien était de dire que cette mesure permettrait plus facilement de déporter des chefs de gangs haïtiens au Salvador, au centre de réclusion connu comme le CECOT. Mais en ce moment, ce sont les gangs qui ont le dessus sur les forces de sécurité. Donc la question reste, comment est-ce que on va capturer ces chefs avant de les transférer, bien sûr, dans des prisons d'autres pays.
Propos recueillis par Michael Ponge. C'est un décompte établi par l'agence France-Presse. L'Arabie Saoudite a exécuté 100 personnes depuis le début de l'année. 59 ont été condamnés pour des affaires de drogue, incluant 43 étrangers. L'Arabie Saoudite, qui est l'un des pays au monde où la peine de mort est la plus appliquée. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan ont des conséquences sur le plan commercial. En effet, New Delhi interdit l'importation de toute marchandise en provenance du Pakistan, même si elles n'ont fait que transiter par le pays. Cette mesure, avec effet immédiat, intervient 11 jours après l'attentat qui a tué 26 touristes dans le Cachemire indien. Gali Bonin.
L'annonce de la Direction générale du commerce extérieur de l'Inde vient officiellement mettre un terme à toute relation commerciale entre les deux États. Le Pakistan avait déjà suspendu les importations indiennes la semaine dernière et aujourd'hui, ce sont les livraisons pakistanaises de fruits, de noix, d'huile et de produits naturels qui resteront bloquées à la frontière. En Inde, l'impact de cette mesure risque d'être minime. Le commerce entre les deux voisins était déjà au plus bas sur l'année financière 2023-2024. À peine 3 millions de dollars de marchandises ont été importés depuis le Pakistan, un chiffre qui frôlait plutôt les 500 millions de dollars en 2017-2018. Ces dernières années, le commerce transfrontalier a chuté au gré des tensions et des affrontements. Dernier événement en date, l'attaque meurtrière du 22 avril au Cachemire indien. Pour New Delhi, il n'y a aucun doute, Islamabad se cache derrière l'attentat qui a tué 25 Indiens et un Népalais. En guise de représailles, l'Inde a également suspendu le traité de l'Indus de 1960. Une entente essentielle pour l'approvisionnement en eau du Pakistan.
Au Canada, les autorités intentent une action contre ArcelorMittal. Le groupe minier et sidérurgique est accusé d'avoir relâché des substances nocives dans l'environnement. 200 chefs d'accusation sont retenus pour des faits survenus entre 2014 et 2022, Simon Rosé.
En 2022, ArcelorMittal avait déjà été condamné au Canada. Amende de 15 millions de dollars pour notamment des rejets de substances nocives dans des cours d'eau. 3 ans plus tard, l'histoire se répète car les faits reprochés sont similaires et se sont déroulés dans la même région, à proximité d'installations minières du groupe au nord du Québec. Les autorités parlent de zinc, de nickel et autres matières, je cite, à la létalité aiguë. Tout cela retrouvé dans les principaux affluents de la rivière Moisy. C'est un cours d'eau à saumon réputé l'un des plus importants d'Amérique du Nord au statut particulier de réserve aquatique. Toute activité de prospection y est interdite, tout comme l'exploitation minière, gazière ou pétrolière. 200 rejets de ce type ont pourtant été recensés par le ministère de l'Environnement canadien, 200 chefs d'accusation déposés devant un tribunal qui devra donc statuer. Contacté par la presse canadienne, ArcelorMittal n'a souhaité faire aucun commentaire.
En Australie, les travaillistes remportent les législatives. Le premier ministre, Anthony Albanese, devrait rester à son poste. Post. Le coût de la vie et les inquiétudes liées à la politique étrangère du président américain Donald Trump ont été au cœur des préoccupations des électeurs pendant la campagne. Et la radio Voice of America, que Trump justement veut démanteler, va reprendre ses émissions. Les comptes des 1406 employés et contractuels ont été réactivés. Mi-mars, l'administration Trump avait viré les journalistes et commencé à licencier certains reporters de Voice of America, ainsi que de plusieurs autres médias publics. Mais la justice américaine s'est opposée à ces mesures. Venons-en à l'actualité sportive à 20h10. Thomas de Saint-Léger, le football, quelle semaine pour le Paris FC. Hier, la section masculine avait assuré sa montée en Ligue 1 et aujourd'hui, les féminines ont remporté la Coupe de France.
Qui plus est, face aux voisines du PSG, 0-0 au bout de la prolongation de cette finale. C'est au tir au but que les féminines du PFC sont allées chercher le premier titre de la jeune histoire du club, lancé sous ce nom en 2017. Premier titre aussi à 39 ans pour la joueuse emblématique de l'équipe, la capitaine Gaëtane Tinet, tout cela à quelques semaines de sa retraite. C'est ce qu'on appelle sortir par la grande porte. Gaëtane Tinet au micro de Beansport.
Extraordinaire, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pensé ça. C'est une Coupe de France, mais pour moi c'est un trophée extraordinaire parce que c'est le seul de ma carrière et ça récompense beaucoup, beaucoup d'efforts et le travail d'un club qui depuis des années progresse chaque année face à deux énormes équipes qui sont Lyon et Paris Saint-Germain. Et je me disais c'est pas possible qu'on gagne pas, on rate le pénalty et suspense jusqu'au bout. Il fallait que je gère mes émotions, je suis allée voir ma psy plusieurs fois le dernier mois et ce matin elle m'a envoyé un petit message, elle m'a dit accueille toutes les émotions, tu vas faire un beau match. J'ai eu quelques crampes, je ne sais pas pourquoi, j'en ai jamais, mais ça devait être la pression. Et j'ai dû sortir et c'était aussi finalement un beau passage de témoin et l'équipe a pris le relais et c'était encore plus beau.
Ouais, sous la musique des Champs-Élysées, Gaëtane Tinet avec ses coéquipières du Paris FC qui sont aussi dans la course pour le titre de championne de France. Elles sont qualifiées pour la phase finale de la première division féminine, les play-offs comme on dit.
Et à l'inverse, cela n'était pas la journée de l'autre club de la capitale, le PSG, champion de Ligue 1, mais battu 2-1 à Strasbourg.
Oui, alors l'équipe était très remaniée, rajeunie bien sûr. On pense déjà à la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal. Arsenal, mercredi prochain, Arsenal, petite parenthèse, qui en ce moment est tenu en échec par Bournemouth un partout. Mais bon, elle fait tâche, hein, cette deuxième défaite de suite des Parisiens, 2-1 donc, sur le terrain de Strasbourg. Résultat qui permet aux Alsaciens de grimper à une très intéressante quatrième place.
Et c'est donc une excellente opération dans la très disputée bataille pour le podium.
Et Monaco, également concerné et encore dauphin du PSG il y a quelques semaines, se retrouve sixième ce soir avant d'aller jouer dans un peu plus de trois quarts d'heure un match très important à Saint-Etienne, important pour les deux équipes d'ailleurs puisque les Verts sont 17e et pour l'instant relégués en Ligue 2.
Le football ailleurs en Europe, l'Allemagne, Leipzig retarde le titre du Bayern Munich.
On avait sorti le champagne ou plutôt la bière sur le banc munichois et puis on a tout remis au frais après le but inscrit par Youssouf Poulsen dans le temps additionnel de ce choc de Bundesliga, but qui permet au RB Leipzig d'arracher le nul 3 partout, de prendre un point et de repousser donc le 34e titre de champion du Bayern. On ne va pas parler de suspense relancé non plus. Les Bavarois sont toujours largement devant leur dauphin Leverkusen. L'affaire devrait être pliée rapidement.
Alors par contre, c'est plus serré en Espagne et en Italie, Thomas.
Les deux grands championnats avec encore un peu de suspense pour le titre, même si en Italie, Naples vient de faire un petit break sur l'Inter Milan. 6 points d'avance après une victoire 1-0 à Lecce. Un match en plus aussi de jouer pour les Napolitains par rapport à l'Inter. C'est un peu la même chose pour le Barça en Espagne. Barcelone peut prendre 7 points d'avance sur le Real Madrid à condition de s'imposer sur le terrain du dernier Valladolid. Et le Real jouera bien sûr plus tard.
Alors justement, restons en Espagne. Mais pour parler de tennis cette fois, la finale dames du tournoi de Madrid est en cours.
Elle oppose la première joueuse mondiale, la Biélorusse Aryna Sabalenka, à l'américaine Coco Gauff. Sabalenka mène 1-7-0. Les deux joueuses sont à la fin de la deuxième manche. Demain, finale du tableau masculin entre le Norvégien Casper Ruud et le Britannique Jack Draper.
Enfin, un mot de boxe, c'est du lourd. Ce soir, à Riyad, sur le ring, le Congolais Martin Bakole.
Face au Nigérian Efe Ajagba dans une demi-finale mondiale 100% africaine. Le combat principal de la soirée oppose le Mexicain Canelo Alvarez au Cubain William Skull pour l'unification des ceintures WBC, IBF, IBC de la catégorie super moyen.
Thomas Saint-Léger dans RFI Soir.
Ah, white sands, gentle ocean breeze, turquoise waters and strict media censorship. Many countries are a paradise for tourists, but a living hell for journalists. Discover the Reporters Without Borders World Press Freedom Index 2025 on rsf.org. Warning, once you know the truth, you may want to rethink your travel plans.
En ce 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, intéressons-nous au déboire que vit la journaliste, que vivait la journaliste ukrainienne Victoria Roshina. Elle a été la seule à raconter ce qui se passe dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, puis elle a été tuée sans qu'on sache dans quelles circonstances. Le réseau de journalistes Forbidden Stories vient de publier une grande enquête sur l'enlèvement et les conditions de détention de cette consoeur. Anne Kantner en parle avec Laurent Richard, fondateur de Forbidden Stories, qui nous rappelle d'abord qui était Victoria Roshina.
Victoria Roshina, c'était une journaliste âgée de 27 ans qui était la seule journaliste ukrainienne à oser couvrir les territoires occupés par la Russie. Elle y allait, elle avait déjà été arrêtée par le FSB, elle avait été interrogée brutalement, elle avait décidé d'y retourner à l'été 2023 pour enquêter sur quoi ? Pour enquêter sur un système de détention secret, pour enquêter sur ces milliers de civils ukrainiens disparus dans des prisons en Russie et torturés. Et elle a fini victime de sa propre enquête et on a décidé avec 45 autres journalistes de poursuivre son travail.
Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Alors on a essayé de reconstituer le fil de la vie de Victoria et aussi de sa mort, des conditions de sa mort. On sait qu'elle était partie donc pour couvrir les atrocités commises par les Russes dans des, ce qu'ils appellent les garages, sorte de chambres à torture, où les civils ukrainiens se retrouvaient entassés par centaines, voire par milliers, pour y être ensuite torturés. Elle voulait nommer aussi et identifier ceux qui étaient responsables de ce système de torture et de détention en Russie. Et elle était partie pour cela, s'infiltrer à nouveau dans les territoires occupés par les Russes. On sait qu'elle a été arrêtée à l'été 2023 et puis on a totalement perdu sa trace. Son téléphone a été coupé, plus personne n'était en contact. Elle a été officiellement déclarée disparue. Et on a mené donc toute une enquête pour interroger de nombreuses personnes qui avaient été incarcérées puis libérées de ces prisons russes et qui avaient croisé au fil de leur détention Victoria. Et qui nous ont livré des informations sur son passage et on a pu retracer son passage et on a pu déterminer qu'elle avait effectivement passé 8 mois dans la prison Taganrog, qui est une sorte de Guantanamo russe où la torture est pratiquée de manière systématique, massive et ultra-violente.
Jusqu'à ce que son décès soit annoncé à sa famille.
Son décès est effectivement annoncé en septembre 2024. Le problème, c'est que 3 semaines plus tôt, elle était censée être libérée. Il y avait un échange de prisonniers de prévu. Victoria avait même eu le droit d'appeler son papa et de lui dire « je vais bientôt rentrer à la maison ». Elle est revenue finalement dans un sac mortuaire en février 2025. Une autopsie a été pratiquée et lors de l'autopsie, on s'est rendu compte que des organes manquaient. Les globes oculaires avaient été enlevés, le larynx avait été enlevé, d'autres parties avaient été enlevées, visiblement pour masquer les conditions dans lesquelles Victoria avait trouvé la mort. Et donc nous, on a poursuivi son enquête pour essayer justement d'identifier qui sont et qui se cachent derrière ce système de détention et puis aussi d'enquêter un peu plus sur la structure de cette prison, Taganrog, ce Guantanamo russe, et découvrir comment la torture y est pratiquée.
Voilà, Victoria Roshina, mort au champ d'honneur de l'information. L'actualité des médias, c'est également l'exception culturelle dans le collimateur de Washington. À Maurice Rochegonde, il y a en effet des inquiétudes autour de l'exception culturelle française parce qu'elle se retrouve au cœur du bras de fer entre l'Union européenne et les États-Unis.
Oui, l'exception culturelle, c'est ce terme inventé en 94 pour défendre le droit d'un pays à protéger sa culture par des subventions, des mesures de soutien ou des quotas. Si la France a pu défendre son cinéma, ses séries et ses dessins animés, c'est en grande partie grâce à ce dispositif d'exception par rapport au traité de libre-échange. Les œuvres du cinéma et de l'audiovisuel bénéficient de l'aide du CNC, le Centre National du Cinéma. Les diffuseurs sont soumis à des quotas d'œuvres européennes ou d'expression française. Une taxe sur les billets des salles de cinéma finance les films indépendants. Et depuis 2021, les plateformes américaines ont aussi l'obligation d'investir 20% de leur chiffre d'affaires dans la production en France. Ce sont ainsi près de 350 millions d'euros par an qui ont été injectés par Netflix, Disney+, ou Prime Video dans l'audiovisuel et le cinéma français. Or voilà que ce bel édifice pourrait être remis en cause dans le cadre des discussions autour des barrières douanières entre l'UE et les États-Unis.
Alors est-ce que l'administration Trump souhaite revenir sur ses obligations ?
Eh bien, le 21 février, elle a publié un mémorandum qui dénonce les régulations étrangères et en particulier européennes qui désavantagent les entreprises américaines en taxant leurs plateformes ou en fixant des obligations d'investissement comme le prévoit la directive sur les services de médias audiovisuels. L'administration Trump recommande des mesures de rétorsion douanière et elle est d'ailleurs soutenue dans ce combat par le syndicat des réalisateurs américains et par la Motion Picture Association, le lobby des majors hollywoodiennes et des plateformes qui parlent de pratiques déloyales.
Et puis, la législation européenne est également pointée du doigt par les États-Unis.
Oui, deux textes clés de l'Union sont visés, le règlement sur les marchés numériques ou DMA sur les pratiques anticoncurrentielles et le règlement sur les services numériques ou DSA sur la régulation des contenus. Ce sont ces textes qui permettent à la Commission de prononcer de lourdes sanctions qui se chiffrent parfois en milliards d'euros. On l'a vu récemment lorsque Apple et Meta ont été condamnés à 500 et 200 millions d'euros d'amende au titre du DMA, une sanction qui a été décidée sans grande publicité par Bruxelles, qui craint d'envenimer la guerre commerciale avec Washington. Les défenseurs de l'exception culturelle craignent aussi qu'une révision dans un sens plus libéral de la directive sur les services de médias audiovisuels l'an prochain soit l'occasion d'amoindrir les règles au profit des plateformes américaines.
Analyse et commentaire d'Amaury de Rochegonde.
Abidjan 97.6 FM.
Abidjan, Côte d'Ivoire, où près de 34 000 naissances prématurées sont enregistrées chaque année. En complément de la prise en charge en couveuse dans les hôpitaux, l'UNICEF et le fonds Muskoka ont développé depuis 6 ans un programme intitulé « Soins mère kangourou ». SMK, qui est une méthode de contact peau à peau entre la mère et son bébé prématuré pour réduire la mortalité néonatale. Pour RFI, Marine Janin s'est rendue au CHU de Trècheville dans la capitale ivoirienne.
Entre les pleurs des bébés et les discussions à voix basse des jeunes mères, l'atmosphère est feutrée dans le service Mère Kangourou. 16 femmes et leurs bébés sont actuellement logés, encadrés et soignés dans cette unité. Parmi elles, Fatima Wandao, 23 ans, porte entre les seins un bébé d'un mois, son premier enfant. L'hôpital a dû déclencher son accouchement avant terme, raconte-t-elle, à cause d'une complication survenue à 6 mois de grossesse.
Il l'a envoyé en couveuse. Le bébé était trop petit. Je me suis dit, est-ce qu'il va m'en sortir? Quand je le voyais dans la couveuse, là, il ne me sentait pas trop ça parce qu'elle était trop petite. Puis quand elle est venue ici, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre soin d'elle. Puis les mamans qui sont ici, ils m'ont aidée.
La méthode est simple, explique l'infirmière Nicole Owo. Garder en permanence les bébés au contact de leur mère grâce à un foulard étroitement noué, comme pour prolonger la grossesse hors du ventre maternel.
On porte les bébés peau à peau à la poitrine des mamans. Et c'est cette chaleur-là qui permet à l'enfant de se développer. Et ça marche. Parce qu'on a les bébés qui viennent à 600 grammes. On les voit aujourd'hui. Ils sont normaux comme les autres bébés.
Le porté kangourou aide l'enfant à se développer, mais aussi la mère à garder un bon état psychologique, car les risques de dépression postpartum sont accentués après un accouchement prématuré. Le docteur Somé Méazieux dirige l'unité Mère Kangourou.
Ça permet à la maman aussi de regagner en confiance, parce que fait un prématuré, on se culpabilise, on est traumatisé. Donc la mère elle-même, elle voit l'enfant grandir, progresser. Parce que chaque jour, on fait les peser. 5 grammes aujourd'hui, 10 grammes aujourd'hui, demain 20 grammes au fur et à mesure. Et donc, elle sent l'enfant même grandir. Donc quand on atteint le kilogramme, on célèbre.
15 centres de soins Mère Kangourou sont déjà fonctionnels, avec l'objectif de doubler ce nombre d'ici 2030. Le gouvernement aimerait appliquer ce programme à l'échelle nationale, encouragé par les bons résultats que souligne Marianne Astirbourg, représentante par intérim de l'UNICEF dans le pays.
Dans ce centre, je crois que pour l'année dernière, on a eu un taux de survie de 99%. 99%, c'est très important. Beaucoup de ces enfants auraient pu décéder. En effet, c'est une question de vie et de mort.
La prématurité reste l'une des principales causes de mortalité infantile. En Côte d'Ivoire, elle est responsable de près de 30% des décès néonataux. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Philippe Le Caplain.
Et feuilletons à présent un livre qui s'intéresse aux triades. Ce terme a été inventé par la police britannique à Hong Kong pour désigner des sociétés secrètes à l'activité criminelle, autrement dit une mafia. Dans son livre « Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde », Antoine Witkin nous en apprend sur son influence fantasmée ou réelle, sa relation ambivalente avec les pouvoirs ou encore sa volonté d'étendre son influence sur toute la planète. Il en dit plus à Nicolas Roca.
Antoine Witkin, bonjour. Bonjour.
D'abord, question simple, pourquoi est-ce que vous avez commencé à vous lancer dans ce projet ? D'où vient votre intérêt pour les organisations de crimes organisés du monde chinois ?
Lorsqu'un jour, un producteur, en l'occurrence, m'a parlé des triades, je dois dire qu'en quelques recherches sur Internet, je me suis dit, c'est génial, parce que justement, c'est inconnu, parce que c'est difficile et donc le défi m'intéressait, parce que c'est une manière de raconter l'histoire de Chine. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu faire, alors, au travers des triades, raconter une certaine partie de la grande histoire de Chine. C'est ça qui m'intéressait. Tout ça a fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans.
Alors, comment est-ce que ces mouvements mafieux commencent à émerger en Chine ?
La mafia chinoise, les mafias, il n'y a évidemment pas une mafia, il y a des mafias, se réclament de sociétés secrètes qui sont nées au XVIIe siècle. C'est vraiment le début de la chute progressive de la Chine jusqu'au XXe siècle. L'empire chinois est dominé par une dynastie d'origine manchoue. Une partie des Chinois, tout simplement, sont pas contents. Il y a des luttes de pouvoir avec des chefs de guerre. Et donc, dans ce chaos, ces sociétés secrètes, à partir du XVIIe siècle, prétendent défendre les paysans, les travailleurs pauvres. Et au fil du temps, évidemment, ces organisations politiques, avec une base sociale, opèrent des activités de plus en plus criminelles. Aujourd'hui, voilà, ces triades se revendiquent de cette histoire-là. C'est d'abord une revendication symbolique qui permet à ces organisations qui sont d'abord criminelles de justifier leur emprise sur les esprits, de justifier également leur emprise parfois territoriale sur des quartiers, sur des gens, de justifier des rackets. Donc c'est évidemment très utile de s'appuyer sur cette histoire longue.
Alors votre livre, c'est aussi énormément de personnages très forts avec lesquels vous vous êtes entretenu. Quelle est la rencontre la plus marquante ?
La rencontre la plus forte, et d'ailleurs elle ouvre le livre, je raconte ma nuit avec le tyran de fer, qui est la tête de dragon, le parrain des parrains, d'une triade qui s'appelle Alliance Céleste, qui est aujourd'hui la triade taïwanaise la plus puissante, et donc l'une des triades les plus puissantes, parce que les triades de Taïwan aujourd'hui sont dominantes. Je dois dire que là, la rencontre était assez incroyable. Voilà, je l'ai vu arriver dans un convoi d'une dizaine de voitures. Il a voulu me renifler au départ, quand même, bien qu'il ait accepté l'interview. Donc on a dîné dans un restaurant. Puis ensuite, on est parti dans un temple, contrôlé par la triade, ce qui est intéressant. C'est quelque chose qui est utilisé par les triades, une légitimité religieuse. Et puis ensuite, on a fait cet entretien assez long. Et puis ensuite, on est parti en boîte de nuit. Puis on est parti dans le club secret de la triade. Voilà, et pour savoir tout ce qui s'est passé, il faudra lire le livre. C'était extrêmement intéressant et utile pour mon enquête.
Alors, vous évoquez la présence bien établi de ces groupes et de ces réseaux mafieux sur l'île de Taïwan. Mais quelle relation est-ce qu'ils entretiennent avec le Parti communiste chinois à la tête de la Chine populaire ?
Jusque dans les années 80, les triades sont complètement coupées de la Chine continentale sous domination communiste. Elles sont donc réfugiées à Taïwan, à Hong Kong et à Macao. La jonction se fait à Hong Kong dans les années 80, quand la Chine s'apprête à se voir rétrocéder, ce qui finalement sera le cas à la fin des années 90, Hong Kong et Macao, qui est un gros enjeu pour la Chine de cette époque. Elles s'aperçoivent que les triades sont extrêmement puissantes, et donc elles comprennent qu'elles n'ont pas intérêt à les avoir contre elles, et donc là, elles opèrent un pacte qui est en gros, vous n'empêchez pas la rétrocession, vous ne nous posez pas de problème, et en contrepartie, vous avez le droit d'investir en Chine continentale, et également de continuer de manière un peu discrète vos activités criminelles un peu partout. Par la suite, évidemment, les triades n'ont pas respecté le deal entièrement, puisqu'elles ont mené des activités criminelles en Chine, alors qu'au départ, elles n'étaient pas censées le faire. Et ensuite, si vous voulez, cette relation continue, cette relation d'instrumentalisation réciproque, de donnant-donnant. Aujourd'hui, elles sont utilisées assez indirectement par le pouvoir chinois, donc pour sécuriser les routes de la soie, pour éventuellement, et je pense que c'est surtout ça qui intéresse la Chine communiste, essayer de contrôler les diasporas chinoises en Asie du Sud-Est. Donc elles rendent un certain nombre de services ponctuels. Encore une fois, il n'y a pas une alliance structurelle. Chacun a ses intérêts. Le pouvoir chinois, je pense, se méfie beaucoup des triades, évidemment, qui sont d'ailleurs des criminels et qui sont par ailleurs très souvent pourchassés comme tels. Hein. D'une manière générale, les triades et leurs activités criminelles les plus visibles, les plus quotidiennes, sont évidemment réprimées parfois très fortement par les autorités chinoises, par les autorités hongkongaises. Ça fait pas de doute. Voilà.
Merci beaucoup Antoine Witkin d'avoir répondu aux questions de RFI.
Et
merci.
Le titre de son ouvrage, Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde, publié chez Talendier. Dans une minute, RFI Soir se poursuit avec l'actualité en Afrique.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Nous vous proposons un voyage au Groenland qui, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, est au centre des attentions. Pour ses minerais critiques, pour les hydrocarbures de l'Arctique, mais ce territoire danois, et qui entend bien le rester, vit surtout de la pêche et développe désormais son tourisme.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Reporter.net est un site d'information français en accès libre, sans abonnement, sans actionnaire et sans publicité. Il a été créé il y a 12 ans par Hervé Kempf, qui vient d'en transmettre la direction éditoriale à Amélie Mouget. Tous deux sont mes invités pour parler de cette transmission à la tête de ce média pionnier de l'écologie. Rendez-vous dimanche à 11h10 TU sur RFI pour l'atelier des médias.